pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, mieux gérer son entreprise en gérant mieux ses déchets.
Recyc-Québec fait la promotion d'un modèle d'affaires qui pose un regard sur les déchets, non pas comme étant des déchets, mais des ressources.
Une rencontre avec Sonia Gagné, présidente de Recyc-Québec. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, l'été approche, sera-t-il ensoleillé ou morose sur le plan économique?
Ça augmente les risques qu'il y ait une récession. Ouais. Mais c'est pas garanti qu'on va l'avoir.
Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Croyez-le ou non, on y est. C'est le dernier épisode de Pour votre info cette saison. 36 épisodes plus tard, on en a rencontré des gens influents de la communauté d'affaires, de l'énergie au tourisme en passant par l'agroalimentaire, le divertissement, la culture, la restauration, le commerce de détail. Je suis vraiment très reconnaissant qu'autant de gens se soient prêtés au jeu et aient défilé à ce micro depuis le mois de septembre. Je vais faire en fin d'épisode les remerciements comme il se doit, mais avant, laissez-moi vous présenter notre dernière invitée de la saison. Sonia Gagné est présidente de Recyc-Québec depuis 2018. Elle est arrivée, rappelez-vous, alors que le Québec était en pleine crise de recyclage. Depuis, elle a contribué à élargir pas mal la mission de son organisation pour s'attaquer, oui, aux déchets, mais aussi à ce que les entreprises en font. Parce que les déchets des uns peuvent être la matière première des autres, à condition qu'ils se connaissent. Alors, cette semaine, une grande entrevue sur la place des déchets dans notre économie. Bonjour Sonia Gagné.
Bonjour Laurent.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue pour votre info.
Ça me fait vraiment plaisir.
Plaisir partagé. Notre point de départ aujourd'hui, je te propose que ce soit le suivant. Avant de faire cette entrevue-là, moi j'avais une conception plutôt limitée, je vais t'avouer, de ce que fait et de ce qu'est Recyc-Québec. Or, vous avez un rôle qui est fondamental en ce moment dans l'économie puis dans la transition écologique qu'on est en train de faire. J'aimerais ça que tu nous l'expliques, le rôle de Recyc-Québec.
Oui, merci beaucoup de m'en donner l'opportunité parce qu'en fait, tu as raison. On peut avoir l'impression qu'on est taxé recyclage, puis ouais. On est lié bac bleu, bac brun.
Exact.
C'est vrai, mais c'est plus que ça. Donc, effectivement, on est impliqué depuis très longtemps dans la récupération des pneus hors d'usage au Québec. Mais depuis... Notre mission s'est élargie au niveau de l'accompagnement. L'accompagnement des municipalités, l'accompagnement des ICI, donc institutions, commerce, industrie, dans toutes les stratégies qui peuvent permettre de détourner de l'enfouissement de la matière. Ce qui fait en sorte que Recyc-Québec, dorénavant, fait la promotion, en quelque sorte, d'un modèle d'affaires qui pose un regard sur les déchets, non pas comme étant des déchets, mais des ressources.
Vous venez tout juste, Sonia, de déposer votre nouveau plan. Dans ce plan-là, vous dites « l'environnement externe là, nous force, nous les Québécois, à en faire plus pour qu'il y en ait moins de déchets qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement et même au recyclage. Je pense que vous voulez qu'on consomme moins de manière générale ou qu'on consomme mieux. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement externe en ce moment qui fait en sorte que vous dites « il est temps qu'on fasse quelque chose » ?
Oui. Bien, écoute, les ressources ne sont pas infinies. Et le secteur d'activité des déchets a un rôle important à jouer dans la lutte au changement climatique. Dans ce contexte-là, non seulement ce sont les modes de consommation qu'on doit revoir, mais aussi les modes de production. Et c'est là que j'interpelle le milieu des affaires en disant, dans les modes de production, est-ce que le regard qui est posé sur les achats qui sont faits, par exemple, dans une entreprise, la transformation de ce qu'on utilise comme ressources, des déchets qu'on produit et qui sont peut-être pas des déchets, mais qui ont peut-être un potentiel de valorisation, le centre de coût que ça peut être d'éliminer des déchets, de les enfouir. Alors, c'est cet accompagnement-là qu'on propose au milieu des affaires par l'expertise, par des programmes de subvention, par des appels à projets, donc pour susciter l'innovation dans ce secteur d'activité parce que les ressources ne sont pas infinies et dans ce contexte-là, comment on peut en optimiser l'utilisation?
J'aimerais ça qu'on parle de deux sujets dans les prochaines minutes. Le premier, c'est sur le recyclage, parce que on a des croûtes à manger encore, je pense. On y viendra dans un instant. Et ensuite, je veux qu'on parle d'économie circulaire, parce que on est un balado du milieu des affaires. Puis je pense qu'il y a des liens importants à faire avec vos initiatives en économie circulaire et le rôle des entreprises, le rôle que les entreprises peuvent jouer dans cette stratégie-là. On commence par le recyclage. Tu es arrivé à la présidence de Recycle Québec en 2018. On va se rappeler le contexte. 2018, c'est le moment où il y a cette espèce de crise du recyclage. On constate que des pays souvent moins bien nantis ne veulent plus recevoir notre recyclage qui est de très mauvaise qualité, disons-le. On retrouve toutes sortes de patentes là-dedans. On se retrouve à devoir gérer des tonnes et des tonnes et des tonnes de recyclage. Toi, tu arrives dans ce contexte-là. Comment vous avez régler cette situation-là ou pas depuis et où on en est en 2022?
Écoute, en 2018, ouais, c'est cauchemardesque comme début de mandat, là, je dois bien l'avouer. Ce qui se passait à ce moment-là, c'était vraiment la tempête parfaite où, pendant un moment, c'est un marché d'offres et de demandes, hein, les matières résiduelles. Donc, s'il y a de la demande et les prix sont au rendez-vous, la qualité n'était peut-être pas au rendez-vous puisque les matières se vendaient en l'état. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu fermeture des marchés, il y a eu une baisse dramatique de la valeur de la matière et elle s'est mise à s'empiler parce que la traiter ne valait plus rien. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend compte de plusieurs choses et il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour, appuyer la modernisation des centres de tri parce que la qualité passe par la façon dont on trie.
Ouais.
En amont, il y a des programmes aussi de sensibilisation au niveau des citoyens, comme l'application mobile Ça va où, que j'espère que tu as sur ton téléphone.
Non, je n'allais pas. Comment ça marche?
Alors, allons-y. Alors, on télécharge cette application, on entre notre code postal et Ça va où, comme son nom l'indique, va te dire à quel endroit et comment tu vas disposer de ce que tu as dans les mains. Ça peut être un emballage, de la matière, des piles, une ampoule, donc, et selon le secteur que tu habites.
Donc, pour revenir à la question initiale, oui. Si le recyclage n'est pas de qualité, essentiellement, c'est parce qu'on ne sait pas quoi mettre dedans, puis on a besoin de faire de l'éducation auprès de la population pour mieux le comprendre.
C'est une piste. C'est-à-dire que dans le doute, on mettait dans le bac, puis des fois, ben, ça fait augmenter ça, le taux de rejet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi une prolifération de nouveaux emballages, plus complexes, et dont on À la mise en marché, on ne s'est pas posé la question de la recyclabilité.
Je comprends.
Donc ça, quand ce n'est pas recyclable, évidemment, ben, le recyclage est de moins bonne qualité. Il faut dire cependant que dans un bac actuellement, ce que le citoyen met dans le bac, plus de 80 % est effectivement recyclé. Parce que dans le bac, il y a beaucoup de carton, de papier pour lequel il y a des débouchés locaux. Il y a beaucoup de plastique, numéro un, le plastique que tu vas retrouver dans une bouteille de shampoing ou de lessive, par exemple, qui a des débouchés au Québec qui est d'une très bonne valeur. Il y a des problématiques au niveau des plastiques qu'on appelle de 2 à 7, des plastiques mélangés, pour lesquels on travaille très fort justement à trouver des débouchés. C'est le cas, par exemple, du multicouche où on a récemment soutenu un projet où on valorise dorénavant au Québec le carton multicouche, la bouteille de jus, la pinte de lait. Mm-hmm. Donc, cette matière-là trouve dorénavant débouché au Québec.
Donc, 4 ans plus tard, et même un petit peu plus, on en est où? Est-ce qu'on envoie toujours à l'autre bout du monde des ballots remplis de cochonneries?
Je ne peux pas te dire non, puisque ça a fait l'actualité récente.
Ouais.
Donc, oui, ça arrive. Oui, il y a eu de l'exportation. Oui, il faut avoir en tête qu'il y a 26 centres de tri au Québec, donc des modèles d'affaires différents. Mm-hmm. Certains d'entre eux ont signé des ententes pour des débouchés locaux et ont des ententes à long terme, c'est la clé. Certains d'entre eux ont aussi signé des ententes au niveau des municipalités pour partager les pertes et profits. C'est aussi une clé pour améliorer la qualité. Donc, il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis 2018. il reste du chemin à faire parce que éco-conception, par exemple, va nous amener à mettre en marché des emballages mieux recyclables. Donc, c'est ces stratégies-là qu'on met en place vraiment à pied d'œuvre actuellement. Donc, deux points. Modernisation des centres de tri depuis 4 ans, très intensivement, et programme pour soutenir des débouchés. Mm-hmm. Ceci dit, quand on soutient un débouché depuis 2008, avant, et tu le sais très bien, quand on développe une nouvelle technologie, mais avant sa commercialisation, il peut y avoir plusieurs années. Donc, il y a des technologies qui arrivent à maturité actuellement pour pallier à ces difficultés.
Bon, puis la question des débouchés est un pas naturel vers là où je veux t'amener pour le reste de cette discussion-là, c'est la question de l'économie circulaire. C'est un concept qui est très mal compris, je pense, fait qu'on va prendre le temps de l'expliquer correctement. L'économie circulaire, ça veut dire quoi en 3 mots avant qu'on fasse le bilan de si on est bon ou on n'est pas bon en économie circulaire? Rappelle-nous qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on devrait s'y intéresser.
Donc, l'économie circulaire, ben c'est le contraire de l'économie linéaire. Donc, aujourd'hui, on produit, consomme, jette. En caricature, ouais. C'est l'économie linéaire. L'économie circulaire, on tente, par différentes stratégies, de garder en boucle le plus longtemps possible la ressource.
Donne-nous un exemple.
Alors, il y a différentes stratégies qui peuvent faire en sorte qu'une ressource peut être gardée en service, un produit ou un service peut être gardé plus longtemps. Partager une perceuse, louer une perceuse, au lieu de s'en acheter une et de l'utiliser...
Donc, l'économie du partage.
En moyenne, ouais. Un jour et demi par année, cumulé. Et donc, on va parler donc de différentes stratégies pour allonger la durée de vie. Mm-hmm. Il y a différentes initiatives sur lesquelles on a travaillé cette année. Je vais t'en nommer en vrac le fait, par exemple, d'avoir une carte des réparateurs qu'on a publiée avec Protégez-vous. Ça fait en sorte que quelqu'un qui veut allonger la durée de vie d'un petit électroménager, par exemple, pourrait trouver qui répare dans mon secteur.
OK. Donc, partager.
Réparer.
Oui. Puis... dans certains cas, utiliser, si je comprends bien, le déchet d'une organisation ou d'une entreprise pour qu'il devienne un intrant dans une autre.
Oui, ça, c'est une stratégie qu'on appelle la symbiose industrielle. Et une symbiose industrielle, c'est un groupe d'entreprises ou d'organismes qui se mettent ensemble puis qui disent « mon déchet devient ta ressource ». Et okay. Là, on a une multitude d'exemples. C'est très dynamique au Québec. Chaque territoire au Québec a une symbiose qui est active actuellement, puis il y en a qui sont vraiment très actives.
Mm-hmm. Il y a des exemples comme les jus loupes qui sont bien connus puis qui sont simples à comprendre où de vieux fruits pas beaux deviennent l'intrant pour des jus qui...
sont à valeur ajoutée,
voilà.
Bien entendu. Puis c'est devenu un modèle d'affaires. Puis j'irais plus loin que ça, c'est que à la fois le distributeur de fruits et légumes qui, ces fruits-là, ne trouvait pas de débouchés, payait pour les enfouir.
Ah.
Donc, il y a des économies pour celui qui devait se départir des fruits et légumes qui ne trouvaient pas une seconde vie. Mais cette matière première devient, pour Loop Mission, par exemple, son intrant pour mettre en marché un produit à valeur ajoutée et ouvrir... une deuxième usine et avoir une croissance très intéressante.
Cela dit, bon, ça c'est beau en pratique. Mm-hmm. On comprend le concept, puis on voit comment ça peut fonctionner. L'indice de circularité, c'est vous qui avez fait ça il y a 2 ans, je pense, chez Recyc Québec. Bon, c'est à quel point notre économie est-elle circulaire? Le chiffre magique en ce moment, c'est 3,5%. Fait qu'il y a 3,5% de l'économie qui est circularisée. Ma question est simple, c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon?
Dans les autres juridictions dans le monde, on va retrouver des taux de circularité à 2,4, à 3,6 ou bien même aux Pays-Bas à plus de 24 %. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le taux de circularité est ce qu'il est. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un indice qui est relativement bas. La raison est assez simple, c'est que c'est beaucoup lié aussi à notre territoire puis à la disponibilité incroyable de nos ressources. Il faut se le dire, on a aussi les défauts de nos qualités.
Mm-hmm. C'est qu'on en a, des ressources.
On en a beaucoup. Ils sont disponibles. On a grand territoire à couvrir. Donc, une ressource circularisée. Puis là, on s'entend là, que On ne parle pas ici d'un taux de recyclage. On parle de l'ensemble des ressources qui entrent et qui sortent de notre économie. Mm-hmm. Donc, il y a des ressources qui peuvent être captives pendant 50, 60, 100 ans parce qu'elles ont servi, par exemple, à faire une infrastructure. Ça, c'est une économie circularisée à 100 %.
Ça se peut pas.
Ça se peut pas.
Mm-hmm. Mais cela dit, 3,5 %, on se dit qu'il y a 97 % de notre économie qui est dans le mode « j'achète, j'utilise et je jette ». C'est pas beaucoup.
Et là, on a un potentiel énorme de faire une différence. Et dans ce que dit le rapport qu'on a fait avec un organisme qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Circle Economy, on dit il y a plus d'une trentaine d'actions à mettre en place qui fait en sorte qu'on pourrait facilement doubler, voire tripler l'indice de circularité. Mm-hmm. Et ça va de s'impliquer au niveau de l'aménagement du territoire jusqu'à avoir des pratiques d'éco-conception, jusqu'à encourager, par exemple, l'utilisation de contenus recyclés dans des produits neufs. Donc, il y a différentes stratégies qui sont identifiées. Il y en a qui sont déjà en place. Quand on regarde les différentes politiques, par exemple, au Québec, qui sont la politique bioalimentaire ou la politique du ministère des Ressources naturelles, on a aussi déjà des actions qui sont en cours.
Si je suis en affaires aujourd'hui et que je me dis, OK, là, j'entends le cri du cœur, il faut que je fasse plus, il faut que je le fasse plus vite, Recyc Québec me dit, mets la main à la pâte, je commence par où?
D'abord, au niveau des achats. Donc, qu'est-ce qui entre chez moi? Qu'est-ce que j'achète au juste? Et quand j'achète, est-ce que c'est recyclable, réparable? Est-ce que ça peut avoir une seconde vie? Donc, comment ma politique d'achat, comment les choix qu'on fait ont d'impact? Donc, cette notion de prendre nos décisions en fonction du cycle de vie, de ce qui entre. Et on a constaté, d'ailleurs, beaucoup de résilience durant la pandémie dans des régions où il y avait des symbioses industrielles qui ont sécurisé des chaînes d'approvisionnement. Mm-hmm. Donc, on met pas en place l'économie circulaire juste parce que c'est vertueux et que c'est à la mode. Il y a définitivement,
payant.
C'est payant.
Ouais.
Des économies non seulement à faire, mais aussi sécuriser, oui, on le disait, des chaînes d'approvisionnement.
Question pour toi, comment on les trouve, ces entreprises-là, qui ont besoin d'intrants qui peuvent être nos extrants? Comment on les crée, ces maillages-là?
Alors, le mot maillage, c'est exactement le bon terme, parce qu'il y a, pour chacune des symbioses industrielles, il y a des animateurs.
Okay.
Donc, ils mettent en relation des entreprises qui font l'état des lieux. J'adore le mot gisement. Puis souvent, gisement, on va l'utiliser en ressources naturelles, mm-hmm. mais les gisements existent dans les entreprises de ressources qui peuvent être utilisées par le voisin, par un tiers, ou même réintégrées dans les processus de production. Donc, il y a un animateur de symbiose qui est là pour vous aider. Il y a des programmes aussi qui existent pour faire des projets pilotes sur la transition vers l'économie circulaire. Donc, il y a une panoplie. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Il y a des programmes qui peuvent permettre le soutien à une entreprise pour faire le bilan de ses pratiques puis voir les opportunités.
Mm-hmm. En as-tu d'autres bons exemples d'entreprises, d'organisations qui ont réussi ce passage-là vers l'économie circulaire ou qui pourraient servir d'exemple?
J'ai deux exemples en tête qui utilisent la drèche de microbrasserie pour faire, par exemple, des biscuits ou de l'alimentation animale. Mm-hmm. Donc, une microbrasserie, lorsqu'elle elle produit de la bière, elle produit aussi un déchet qui est de la drèche, mais ça a une valeur nutritive importante. Donc, c'est réintégré dans, par exemple, des farines ou de l'alimentation là, animale. J'en ai un autre en tête, la vague. Donc, ce petit gobelet bleu qu'on peut, qui est consigné et qu'on peut utiliser pour aller chercher notre café, fait en sorte qu'on met en marché, qu'on a une utilisation multiple. Donc, ça réduit la production de gobelets à usage unique. Alors, il y a beaucoup de stratégies actuellement en place qu'on voit un petit peu partout pour diminuer l'usage mm-hmm. unique.
Puis, il y a de la place pour des modèles d'affaires innovants, je pense, puis de nouvelles entreprises qui pourraient profiter de l'intérêt grandissant pour l'économie circulaire. Merci d'avoir été avec nous, Sonia, aujourd'hui. Merci.
Merci, Laurent.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
Bonjour, Hendrix.
Bonjour.
Alors, on y est après, mon Dieu, presque une année à parler d'économie. Tu es notre dernier chroniqueur avant la saison estivale. C'est toi qui as l'honneur de clore cette première saison de ces chroniques économiques à Pour votre info. Merci d'abord de cette contribution-là depuis le mois de septembre. Ça a été très agréable et fort apprécié de pouvoir discuter d'économie avec tes collègues et toi depuis septembre.
Bon, ça fait plaisir. La pression est forte.
Pour l'année prochaine. On finit les choses en beauté. On va parler de l'été, si tu veux bien, Hendrix, aujourd'hui, parce que, bon, il est à nos portes. C'est notre dernière émission avant les vacances aussi. La question est fort simple, mais je pense que la réponse va être compliquée. Est-ce qu'on doit s'attendre à un été économique ensoleillé ou plutôt pluvieux?
Ah ouais, c'est la grande question, hein, le fameux mot récession, hein, qui revient plus dans l'actualité. On se la fait poser souvent, cette question-là.
Ouais.
C'est évident, là, quand on regarde tous les éléments de risque en cours, là, on parle de la hausse des prix des matières premières, l'inflation en général, là, qui a augmenté, ce qui, en bout de piste, pourrait se traduire par une baisse là, de la consommation. Donc, les gens, tout coûte plus cher, donc les gens doivent réduire la quantité consommée, ce qui serait une récession. Sinon aussi, la hausse des taux d'intérêt, justement, qui accompagne cette hausse de l'inflation-là, parce qu'il ne faut pas oublier les banques centrales, elles, l'inflation, l'objectif, c'est de la maintenir à 2% à moyen terme. Donc, quand elle est trop forte, ben, on monte les taux d'intérêt. Puis en plus, la volatilité sur les marchés financiers. On a vu plus de volatilité récemment sur les marchés financiers. Donc, les gens qui perdent de l'argent dans le placement, ben, des fois, ça peut les encourager à moins consommer ou à revoir certains projets. Donc, tout ça, ça augmente les risques qu'il y ait une récession.
Ouais.
Mais ce n'est pas garanti qu'on va l'avoir. D'ailleurs, c'est pas ça notre scénario de base encore. Là.
Bon, ça, ce sont de mauvaises nouvelles. Ce serait des raisons de croire que l'été serait plutôt orageux. Mais il pourrait aussi être beau. Je pense notamment au tourisme parce que les indicateurs semblent intéressants. On peut espérer une bonne saison touristique pour le Québec et le Canada.
Ouais. Tu fais bien de le mentionner, parce que c'est pas toutes les industries qui vont mal aller. Tantôt, j'ai parlé de la hausse des taux d'intérêt. C'est évident qu'il y a des industries qui sont plus sensibles à cette hausse des taux d'intérêt-là. La première, je pense, réponse qui nous vient à l'esprit, c'est le marché de l'habitation,
ah oui.
Qui a super bien fait durant la pandémie, qui a compensé pour le fait qu'il y a d'autres industries qui ont mal été, entre autres l'industrie touristique, que ça a vraiment pas bien été durant la pandémie. On comprend bien pourquoi.
Mm-hmm.
Mais là, il vient là pour la prochaine été, l'été qui s'en vient, en fait, on anticipe un ralentissement dans l'habitation en raison de la hausse des taux d'intérêt. Mais par contre, étant donné qu'on est dans l'après-pandémie, ben là, évidemment, tout ce qui est touristique, restauration, services de voyage, ça devrait être une bonne été. Et des bons trimestres aussi, là. On peut le suspecter. Il y a d'autres entreprises, l'industrie aussi, là, l'industrie automobile, entre autres, que il y a quand même beaucoup de gens qui seraient prêts à changer de voiture, mais il n'y en a pas assez. C'est, mm-hmm. c'est ce qui freine présentement la vente automobile, donc c'est l'absence d'inventaire. Donc, si moindrement qu'on retrouve une certaine normalité dans les chaînes d'approvisionnement, et à cet égard-là, cette semaine, on a appris que la Chine, ben, les confinements en Chine prenaient fin. Ça va aider, donner beaucoup d'oxygène aux chaînes d'approvisionnement mondiales et ça pourrait se traduire par un peu plus d'approvisionnement, entre autres dans le secteur automobile. Donc, ça, c'est des industries comme ça qui pourront en bénéficier là, à court terme.
Mm-hmm.
On pourrait aussi mentionner le taux d'épargne élevé. Les gens ont quand même accumulé beaucoup d'argent. Ben, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui n'ont moins, qui n'ont pas réussi à l'accumuler, mais quand même beaucoup qui ont réussi à l'accumuler durant la pandémie. Donc, cet argent-là peut être dépensé aussi dans les prochains mois. Donc, il y a quand même des éléments positifs qui permettent de croire encore pour l'instant qu'il y a plus de chances que l'été soit beau que mauvais sur le plan économique.
Bon, ben, j'aime ton optimiste, Hendrix. Merci de ce tour d'horizon-là. Puis espérons effectivement qu'on va maintenir ça au moins pour les prochains mois.
Peut-être un des indicateurs qu'on suit, là, c'est la confiance des consommateurs. Des indicateurs comme ça qui essaient de mesurer la confiance des consommateurs.
Oui. Ouais.
Généralement, c'est assez des bons précurseurs. C'est drôle parce que présentement aux États-Unis, on a deux grands indicateurs. Il y en a un qui pointe vers le bas, mais l'autre, il tient bien. Fait que ça est quand même plutôt rassurant. Surtout lui qui a tendance à mieux performer, tient bien. Puis ça va être la même chose au Canada, au Québec. On va suivre ça de près dans les prochains mois. Tant qu'on voit que la confiance, malgré tout, mm-hmm. tient bien, tant que le marché de l'emploi tient bien aussi. On peut rester confiant.
Hendrix, je le disais d'entrée de jeu, merci et merci évidemment à Jimmy Jean, à Hélène Bégin et à Francis Généreux aussi, tes collègues qui se sont succédés à ce micro depuis les derniers mois. Bon été et au plaisir de se retrouver à l'automne.
Mais ça fait plaisir.
À bientôt.
Été, toi aussi.
Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine et pour cette saison. C'est ce qui termine en effet cette deuxième saison de Pour votre info et c'était le 60e épisode de la série. En terminant, j'aimerais ça prendre deux petites minutes pour remercier ceux qui ont rendu cette émission possible, à commencer par vous qui avez répondu présent semaine après semaine, qui nous avez fait parvenir des suggestions d'invités. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été fidèles et surtout de supporter la production d'un balado d'affaires qui, rappelons-le, est entièrement indépendant. Merci à Desjardins aussi, sans qui cette émission-là ne serait absolument pas possible. J'aimerais surtout remercier Jean-Philippe Lepage et Jean-Benoît Turcotti chez Desjardins pour vos encouragements, votre soutien, vos conseils aussi. Merci à nos invités qui ont pris de leur temps précieux pour venir répondre à nos questions. Et bien entendu, en terminant, à ceux qui ont travaillé à la production de Pour votre info, Charles Prémont, Philippine de Tinguy, Alexandrine Chappet, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt parce qu'on va prendre quelques mois pour recharger nos batteries et, espérons-le, revenir à l'automne avec de nouvelles histoires d'affaires à raconter et peut-être aussi quelques nouveautés. Je m'appelle Laurent Thérien. Un très bel été à vous tous et à bientôt.